Troubadour, flûte oblique, guitare électrique et comme une histoire de la douceur travaillée par l'Europe avec Patrick Boucheron, Bruno Allary et Isabelle Courroy.
Compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Patrick Boucheron, Bruno Allary, Isabelle Courroy, bonjour, bienvenue
bonjour.
À tous les trois. Au programme aujourd'hui, disons une possibilité d'histoire, ça s'appelle Contre-temps, qui paraît au seuil. Ce fut d'abord un spectacle créé à la Criée, à Marseille, en 2018. Sur scène, au moins, parce que je ne pourrais pas citer tout le monde, Bruno Allary à la guitare électrique, Isabelle Courroy à la flûte oblique et au cavale, pour être plus précise, et Patrick Boucheron au pupitre. Et puis, il faudrait y ajouter encore des danseuses, des images, des lumières. Aujourd'hui paraît donc une version qu'on pourrait dire épurée, un texte et un disque enregistré ce printemps en plein confinement, viennent jusqu'à nous dans ce texte et dans ces sons. Béatrice Dedi, Rimbaud d'Orange, Rue de Bœuf, et puis le livre Vermeil de Montserrat, qui est un manuscrit daté du XIVe siècle. Alors c'est un peu particulier parce que vous démarrez votre texte, Patrick Boucheron, sur ce livre en question. Vous démarrez par le XIVe siècle, alors qu'après vont venir vers nous Béatrice Dedi, donc XIIe siècle, vont venir d'autres figures, d'autres images, mais vous commencez par une image tardive qui est celle de ce manuscrit en question. Pourquoi fallait-il commencer par lui ?
Parce que c'est la première, le premier air que mes amis Isabelle et Bruno m'ont fait entendre, parce qu'on a commencé comme ça, parce qu'on a commencé par la musique.
C'est ce qu'on entendait d'ailleurs, hein,
voilà.
Ce qu'on entendait à l'instant était lié à ce manuscrit. Hein,
mais
ce livre.
Très transformé, électrisé, ramené à nous, c'est le travail de la compagnie Rassegna d'abord, par laquelle j'ai connu Bruno Allary et Isabelle ensuite, et de ramener jusqu'à nous le Moyen-Âge. Alors oui, on peut prendre les choses à l'envers, mais je dirais que moi, en tant que historien, je travaille moins sur le Moyen-Âge que depuis le Moyen-Âge. Et donc, c'est depuis ce moment-là que ça vient vers nous.
Qu'est-ce que disait ce morceau-là, justement, dont on a entendu un très très bref extrait, hein, de la façon dont vous avez travaillé ensemble, hein, je veux dire tous les deux, c'est-à-dire vous, Patrick Boucheron, sur la musique, hein, parce que donc là on ne vous entendait pas, mais on entend votre voix, évidemment, votre voix au pupitre disant le texte dont on va parler tout de suite, vous sur la musique sur les conversations préalables que vous avez eues ensemble, comment ça s'est passé ? Bruno Allary.
Merci. Effectivement, c'est le titre un peu déclencheur de la création. Pour plusieurs raisons, je pense que le fait qu'à la base ce soit un chant et qu'il n'ait été, à ma connaissance, quasiment toujours interprété que de manière vocale, exclusivement vocale, j'ai eu envie d'en faire quelque chose, une pièce exclusivement instrumentale. C'est parce que ça fait partie des grands partages que j'ai envie d'essayer de déjouer. Cette présupposée séparation entre musique instrumentale et musique vocale, il y aurait certaines pièces qui seraient assignées à l'un ou l'autre et seulement à l'un ou l'autre. Donc ça me plaisait bien de faire une pièce instrumentale à partir de quelque chose qui était habituellement chanté seulement chanter uniquement.
Parce que ce livre, hein, ce sont des hymnes, des cantiques.
C'est le songbook de Montserrat, en fait, pour les pèlerins qui se retrouvaient là-bas. Patrick parle très bien de ça dans le texte. C'était le recueil de chants qu'étaient priés d'interpréter les pèlerins qui passaient par Montserrat. Et c'était assuré de la bonne tenue de leur moment de fête, disons.
De façon modeste.
Voilà.
Oui.
Et donc voilà, faire de l'instrumental à partir du vocal, également aussi, comme l'a dit Patrick, électriser ça, c'est quelque chose de le mettre en tension, c'est une expression qu'on emploie souvent, mais au sens premier, là, vraiment au sens physique. Et aussi, d'emblée, puis on pourra détailler davantage cette idée par la suite, il y avait dans ce titre-là, qui n'est pas mesuré au départ, ce sont des chants qui ne sont pas, il n'y a pas de signature rythmique, qui ne sont pas mesurés rythmiquement, d'un point de vue musical. Là, il fallait, je voulais essayer de le faire rentrer dans une signature rythmique, et c'est à ce moment-là que s'est imposée on va pas rentrer dans des considérations trop musicologiques, mais il y a une mesure qui est récurrente et quasiment présente sur chacun des titres, qui est la mesure à 9 temps, qui est pas la plus fréquente quand même, en tout cas par chez nous. Par ici, et il y a une notion de rallonger le temps un peu. C'est rentré, ça ne rentrait qu'à 9 en ce qui me concerne. Et donc, je me suis dit, bah, c'est marrant, c'est que ça rentre dans 9. Pourquoi 9, 8 plus 1 et à partir de là, bah, on a tissé cette idée-là, de rallonger un peu le temps.
De rallonger et de faire boiter un peu. Hein, donc, le 8 plus 1 en question. Isabelle Courroy, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose?
Oui, je dirais, par rapport à ce que disait Patrick tout à l'heure, depuis, moi je sens que. Ces pèlerins à Nantes qui arrivent en bout de pèlerinage jusqu'à cet endroit, je sens que je me mets en familiarité avec eux, malgré toute l'époque, tout le temps qui nous sépare, par le chant et par le souffle. C'est-à-dire ces pèlerins à Nantes, je joue depuis le souffle. C'est-à-dire je ne le situe pas dans une temporalité de cette époque, mais encore plus ancienne, qui est le souffle.
Je rappelle donc que vous êtes flûtiste. Écoutez, ça vient de loin. Regardez, ça va vers vous. C'est par là que vous commencez, Patrick Boucheron. Est-ce que l'historien et le musicien entendent la même chose?
Alors, sans doute pas l'historien de la musique et le musicien, mais j'avais une chance, c'est que je ne suis pas historien de la musique. Je suis historien des textes, des images, et avec la musique médiévale, j'ai un rapport qui est distant, voilé, j'allais dire courtois, mais pas passionné. Voilà, c'est pas ce que j'écoute.
Je peux entendre qu'il avait même été un peu hostile au départ.
Non, hostile, comme vous y allez. En tout cas, je commence à dire, ben voilà, moi, c'est pas ce que j'aime spontanément. Et quelle drôle d'idée quand mes amis m'ont proposé ce disque de reprise médiévale, hein, c'est ça, c'est finalement des vieux tubes, des tubes du 12e, 13e, 14e siècle qu'on ramène à nous. Je me suis posé la question sur la catégorie même de musique médiévale. C'est comme ça effectivement que le texte commence. Il n'y a pas de musique médiévale, il n'y a que des manuscrits, et ces manuscrits tout de suite on les ramène à leur matérialité âpre et animal, et là on rejoint effectivement le souffle viscéral de la flûte cavale. Ce sont des bêtes. Ce sont des peaux de bêtes. Et d'une certaine manière, ce qui racle, ce qui d'une certaine manière nous pèse sur le dos, ce qui, Bruno vient de le dire, nous oblige à allonger le pas, c'est ça le rapport à l'histoire. Et donc l'idée pour moi c'était, pour moi et pour nous, c'était de rendre sensible cette distorsion, cette difficulté. Ça vient pas comme ça. C'est pas un disque de musique sacrée qui nous ferait croire qu'on y est encore. Non, on n'y est plus.
On n'a plus les mêmes oreilles. Hein.
On n'a plus les mêmes oreilles, et quand bien même c'est aussi ce dont on parle, quand bien même on le jouerait avec des instruments dont on croirait qu'ils sont de ce temps-là, eh bien, effectivement, nos oreilles aussi ont une histoire.
Benoît Larry, qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez Patrick Boucheron, chez un historien du texte, justement?
Pas seulement l'historien. Évidemment l'historien, mais pas seulement. Et je pense que ce qui m'a frappé, je peux me parler, on va rentrer dans de l'intime assez rapidement, mais ce qui m'a frappé quand j'ai découvert Patrick, c'était j'imagine pas mal de gens ont dû le connaître à ce moment-là, lors du prononcé de sa leçon inaugurale en 2015. C'était bien sûr la parole de l'historien, mais pas seulement. C'était une parole que je trouvais éminemment musicale dans sa diction et extrêmement poétique dans son écriture. Et le fait que dans cette leçon, pour moi, c'était, je m'attendais à écouter, oui, bien sûr, un historien qui allait parler d'histoire exclusivement, et ça m'aurait déjà enchanté. Mais l'entendre dire, parler de ce que la poésie peut avoir d'exact dans son expression, à quel point elle peut parfois nous renseigner avec exactitude. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Je m'attendais pas du tout à ce qu'un historien, au Collège de France, dise que la poésie pouvait renseigner avec exactitude, pas seulement sensibilité ou esthétique, non, exactitude, au même titre que des sciences dites dures. Ça m'avait beaucoup frappé. Et puis, je pense que j'ai été très touché par quelque chose qui est, la couleur est annoncée très tôt, dès le prologue de Contretemps. Ça montre bien que c'était l'idée qui devait ressortir et être mise en avant. Cette obsession du temps, de l'histoire bien sûr, du passé évidemment, mais du temps plus généralement. Et ça, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. On pourrait en parler avec Isabelle, le temps musical, mais le temps aussi de mes lectures, mes petit péché de jeunesse, qui n'en était pas d'ailleurs, de lecture d'auteurs d'anticipation et de la manière dont le temps est généralement associé à l'idée de distorsion, aux allers-retours, à tout ce que ça peut générer, tout ce que ces anachronismes peuvent générer en tant que moteur. Ça me plaisait beaucoup. Et j'ai ressenti tout ça et je pense que c'est l'ensemble de ces choses-là qui m'ont fait aller vers Patrick.
Puisqu'il est question de temps, enfin, on n'a pas fini de parler de temps au cours de cette heure-ci, mais on l'a rappelé tout à l'heure, hein, le titre c'est Contretemps. Qu'est-ce que c'est que le contretemps pour un musicien et pour un historien ?
Pour un musicien, pour une musicienne ?
Je dirais que c'est pas grand-chose pour une musicienne, contretemps. C'est plus... Je le vois plus comme le côté accidentel des événements. Pour moi, c'est un contretemps d'avoir rencontré Patrick Boucheron, d'une certaine façon. Parce que c'était pas inscrit du tout dans ce que j'imaginais faire. Et ce deuxième retour que j'ai reçu de cet impact, qui est à nouveau une sorte de contretemps, c'est-à-dire un revers, une chose qui arrive, mais bénéfique, c'est l'adresse. Avec laquelle tu parles, avec laquelle le public est alerté. Cette adresse-là, pour moi, c'est un contretemps dans le flux convenu des choses. Et c'est plutôt cette impolitesse du contretemps qui m'intéresse que le contretemps purement musical. En plus, dans les musiques que je pratique, qui sont volontairement boiteuses, etc., on n'est pas dans ce contretemps qui structure la musique, parce que le contretemps est souvent associé à la binarité. Et dans le boiteux, on n'est pas dans la binarité, on est dans ce rapport du 2 ou 3, donc le contretemps est beaucoup plus, est lui-même boiteux, donc il n'est pas du tout fondateur d'un groove, etc., comme il est dans la musique, dans d'autres musiques. Donc oui, c'est plutôt le côté intempestif, le côté surprise, que le côté éminemment musical.
Finalement, c'est le même contretemps que le vôtre, Patrick Boucheron.
Oui, moi j'aime bien les entendre parler. Pas seulement jouer leur musique, mais les entendre parler. C'est d'ailleurs pour ça que le livre-disque, qui est lui-même une forme un peu boiteuse d'objet, donne le livre, c'est-à-dire le texte que je dis, plus ou moins, donne le disque, et donne aussi un autre texte assez médiéval d'inspiration, parce que c'est l'accord des désaccords, où c'est pas qu'on s'explique, mais c'est qu'on poursuit la conversation. Et par exemple, sur cette question de l'allongement du temps, qui pour Bruno est plutôt une manière, comme Jacques Brel, d'allonger le pas, pour Isabelle, plutôt de le faire trébucher. Mais enfin, je veux pas non plus figer les catégories. Ben moi, ça m'a plu au fond de le faire, j'allais dire rimer, parce qu'il y a plein de rimes secrètes dans le texte et la musique avec ce qu'on faisait. Parce que ce qu'on faisait au fond, c'était quand même d'essayer de faire entendre ce que c'est que l'éclat du neuf. Et à la toute fin, mais vraiment à la toute fin, au moment où on vivait ensemble séparément, ce qu'on a appelé le confinement, et où on a rassemblé nos sons, à distance, on s'est rendu compte de ce jeu de mots, parce qu'évidemment c'est pas le même mot, que le 9 disait à la fois le 8 plus 1 et la nouveauté. Et ça, c'est quand même très mystérieux, et que c'est peut-être le mot qui est le plus obsessionnellement présent dans le texte et qui est également la signature rythmique.
Exact.
Alors ce livre-là, ce texte-là, en tout cas, Patrick Boucheron portait pendant son écriture, au cours de son écriture, un titre secret, dites-vous, hein, puisqu'il s'appelait « Vous l'appeliez pour vous-même, histoire de la douceur ». Une douceur qui serait justement la nouveauté en tout cas de ces temps-là, hein, donc on est à peu près disons entre le 11e et le 13e siècle. La nouveauté passerait par cette douceur, par l'irruption en tout cas de cette douceur qui ferait nouveauté. Est-ce que c'est ça qu'il s'agissait de faire venir à nous par ce texte-là, c'est-à-dire la sensation d'un temps neuf?
C'est là qu'on a besoin évidemment de le rendre sensible, de l'entendre, parce que si je fais entendre si je ne fais que restituer, disons un poème d'un troubadour du XIIe siècle, il va parler d'oiseaux, de printemps, de petites fleurs et d'herbes fraîches, on va dire ah ouais c'est ça. Ce n'est que ça, mais c'est tout ça, parce que c'était la première fois. Et donc pour faire réentendre la force, l'éclat de ce mot « douceur », c'est là où il faut l'électriser. C'est-à-dire le ramener avec un peu de véhémence. Et puis, c'est pas doucereux, justement, la musique d'Isabelle et de Bruno. C'est quand même, ça peut être, il y a de la brutalité, non ? Enfin, je sais pas.
Oui, enfin moi j'aime beaucoup, enfin j'ai l'impression que la douceur en tant que telle, même s'il n'était pas électrisé, comme tu dis, elle aurait toute sa puissance et sa ce qu'il y a sous la douceur gronde. Je pense que ce n'est pas du tout mièvre, elle n'a pas besoin forcément d'être électrisée. En l'occurrence, mes instruments ne sont pas sonorisés. Ils ont un spectre sonore qui va effectivement du plus infimement doux au plus brutal et au plus viscéral. Ce que va chercher l'électricité, hein, on en parle souvent avec Bruno, comment ses outils virtuels, il peut rechercher des choses qui sont organiquement présentes dans mon instrument. Et cette douceur, c'est tout le spectre en fait de l'infime et du plus âpre du son. Qu'on va entendre, et aussi la rapidité avec laquelle on peut passer de la douceur à l'extrême puissance, et dans la douceur avoir une extrême puissance. Ces deux notions sont pas paradoxales.
Alors on va écouter tout de suite Jacques Roubaud nous parler de ce temps nouveau. Voilà.
Il s'est produit quelque chose d'assez fondamental au XIVe siècle qui peut-être sera réduit ultérieurement, mais je ne le vois pas pour le moment, c'est la séparation entre poésie et musique. Chez les troubadours, il n'y a pas cette séparation encore, donc la division du travail artistique entre poésie et musique, qui se produit partout au XIVe siècle, ne s'est pas encore produite. Donc chez les troubadours, les deux vont tout à fait ensemble. En fait, chez les troubadours, c'est quand même la poésie qui est aux commandes, bien que la musique soit très importante. Mais la poésie est aux commandes, et la musique sert au fond de soutien et de lien entre des éléments de la poésie qui ne sont pas unifiés par un récit, qui ne sont pas unifiés par une progression dans ce qui est dit, parce qu'ils changent constamment de direction. Et donc l'unification est assurée par la musique. Quand cette rupture se produit, quelque chose vient assurer cette unification, c'est le fait que la poésie, quand elle existe en tant qu'autonome, en tant qu'art autonome, ce qui, je pense, est le cas pour moi, en tout cas, c'est le cas aujourd'hui pour moi, joue sur ce que je disais dans un entretien précédent, c'est-à-dire qu'elle joue sur le rapport entre oral et écrit. C'est l'écrit qui, curieusement, qui va, c'est pas l'oral, mais c'est l'écrit qui va prendre la place de la musique. C'est au fond, la partition sur la page, la disposition sur la page, l'espèce d'image du poème qui est sur la page, qui assure l'unité profonde du poème qui lui coule dans l'oralité et joue ce rôle-là.
La voix de Jacques Roubaud, poète bien sûr et spécialiste des troubadours, s'il en est, au micro de Christian Rosset sur France Culture en 2010, hein, c'était pour un épisode d'À Voix Nue. Bruno Allary, est-ce que vous souscrivez à cette interprétation-là de la musique chez les troubadours, en tout cas dans la répartition des fonctions, la poésie aux commandes, la musique à l'unification?
Oui, je pense que c'est quelque chose qui se joue là, qui est extrêmement extrêmement fort et qu'on ressent aujourd'hui encore beaucoup, en tout cas dans les musiques là d'où je viens d'un monde dans lequel le monde de l'écrit et le monde de l'oralité se livrent des batailles acharnées. En fait, dans le grand champ des musiques dites traditionnelles, il peut être très parfois pour certains très suspect d'avoir recours à l'écrit. Et puis je fréquente depuis peu, mais quelques années, un monde où, à l'inverse, tout ne devrait passer que par l'écrit. Et en fait, cette tension, là encore, je parlais de grand partage tout à l'heure, là on en a un qui est vraiment flagrant dans le champ de la musique. Et moi je veux tout, en fait. Je veux des moments où c'est totalement oral et des moments où ça passe par l'écrit. J'ai pas envie de choisir, en fait. Mais je pense que c'est à ce moment-là. J'ai un scoop. J'ai pas pensé tout à l'heure quand on parlait de contretemps. Je reviens un instant sur le mot, si vous me permettez. J'ai un scoop pour mes amis parce que je leur aurais fait part de ça si je l'avais su avant. Je travaille actuellement avec des musiciennes qui travaillent beaucoup qui viennent des musiques médiévales, et une flûtiste qui s'appelle Clémence que je salue. Peut-être qu'elle écoutera l'émission. Hier, jouait des contretemps au sens purement musical, donc des petites notes uniquement en l'air, comme on dit, en l'air. C'est aussi intéressant de noter cette appellation, des notes en dehors du temps. Et j'ai dit, ah tiens, c'est marrant de jouer comme ça. Elle me dit, ah oui, ça porte un nom, c'est le hockey médiéval.
Ah oui.
Le hockey médiéval. Et tu connaissais ça, Isabelle. Le hockey médiéval, c'est marrant parce que le hockey, c'est quelque chose qui revient. C'est un rebond aussi. C'est quelque chose qui revient à période régulière qu'on a des fois un peu du mal à défaire. Le hockey médiéval, ça nous va bien. En tout cas, moi, ça me va assez bien.
Alors, on va peut-être pouvoir s'en rendre compte tout de suite. Je vais vous laisser regagner vos instruments, Bruno Allary et Isabelle Courroie. Donc, l'un à la guitare électrique, l'autre à la flûte oblique, au caval. Alors, vous nous en direz un petit peu plus en revenant à la table tout à l'heure sur votre instrument. Oui. Et puis, je vais laisser Patrick Boucheron nous présenter ce qu'on va entendre.
Bah justement, ce qu'on va entendre, c'est la musique du moment où dans ce qui fut un spectacle, ce qui est aujourd'hui un livre disque, je prends la voix de la comtesse de Die, c'est-à-dire d'une Traubayeritz qui s'étonne elle-même d'être une femme dans un monde d'hommes, qui s'étonne aussi de ce qu'on lui fait croire, de ce que on lui fait espérer, et qui a ce beau nom inquiétant et sonore d'amour courtois, et qui commence au fond à comprendre que finalement, de même que la musique dont on parlait déjoue les genres musicaux entre, vous l'avez entendu, culture populaire et culture savante, entre oral et écrit, ce trouble dans le genre, eh bien, il s'attaque aussi au genre sexuel, à la féminité. Et il y a une théorie qui est une théorie d'histoire littéraire, c'est qu'en fait, les Traubayeritz étaient des hommes qui faisaient les femmes et qui, d'une certaine manière, se faisaient passer pour femmes pour cesser de jouer avec les jongleries de ces difficultés faciles que sont effectivement la virtuosité poétique et d'aller à l'authenticité. Alors, voilà, c'est un morceau où la femme qui parle, la comtesse de Die, prend conscience au fond que ce qui se dit en elle, c'est moins la féminité que l'authenticité.
C'est à vous.
J'abandonne. Cela ne m'intéresse pas tant que cela, au fond, qu'on me prenne pour un homme ou pour une femme. Je suis le souffle et la puissance du chant, le cri, la voix. J'attends. J'ai tout le temps devant moi. Je sais que le premier homme de lettres dans le royaume de France sera une femme et s'appellera Christine de Pizan. Elle vivra au temps du roi Charles V, au début du XVe siècle, et viendra d'Italie. Comme Dante, elle traquera cette langue noble qu'il appelait la panthère parfumée. Elle qui exhale son parfum partout et ne se montre nulle part. Elle écrira, dans son livre de la mutation de fortune, ce qu'on n'appelle pas encore son infortune. Elle y sera, dans un navire sans pilote, la mer déchaînée. Alors, au moment où elle prendra le gouvernail, son corps deviendra plus vigoureux et, écrira-t-elle, sa voix engrossit. Christine ne chantera plus ce qu'elle préférerait taire.
Merci beaucoup Bruno Allary à la guitare, Isabelle Courroy au caval dans le studio 561 de la Maison de la Radio pour un écho, hein, plus qu'un extrait véritablement de l'album Contre-temps, paru au Seuil avec ce texte. Un titre qui évoque donc cette figure, comment on pourrait dire, hésitante,
oui,
de Béatrice de Die. Qu'est-ce qu'on sait véritablement d'elle, hein, Patrick Boucheron?
On sait ce que une vida, qui est au fond le trait biographique commun à tous les troubadours, dit d'elle, c'est-à-dire presque rien, qu'elle a vécu une passion amoureuse avec un homme qui ne l'aimait pas, c'est normal, qui s'appelait Rimbaud d'Orange, qui était un troubadour de ce qu'on appelle le trobar clous, c'est-à-dire une manière très raffinée, très fermée, clous, ça veut dire fermée, de pratiquer la poésie, qu'elle était mal mariée, mais là encore, c'est normal pour cet amour qu'on dit courtois, mais qui était, comme le rappelle Georges Duby, un mal Moyen-Âge, qui était un amour chevaleresque, d'autant plus brutal et stupide, que en fait son expression littéraire était élégante et raffinée, et qu'elle est partie effectivement de cette situation pour chanter des chansons. Et ce qui reste de toute façon de ces artistes, qui sont des grands artistes, ce sont leurs œuvres. Mais ça, c'est vrai des troubadours, mais c'est vrai aussi de Ruteboeuf, qui n'est rien d'autre qu'un nom.
Alors, on va y revenir, bien sûr, à Ruteboeuf. S'arrêter sur elle, sur cette figure-là, alors d'autant plus que vous vous y arrêtez au jeu, hein, donc en prenant au jeu le jeu de Béatrice Dedi, c'est-à-dire en prenant la voix de Béatrice Dedi dans votre texte, hein, en disant « jeu », une sorte de façon de mimer la transgression, une transgression d'historien, je suppose, que de parler au jeu. S'arrêter sur elle, hein, précisément, c'est s'arrêter sur quoi? C'est s'arrêter d'abord sur un moment faible, hein, de l'histoire?
Oui, d'abord, moi, ça m'intéresse, enfin, c'est plus que ça m'intéressait, c'est quelque chose qui m'appelait parce que, au fond, ça pose la question de la, du point de vue en histoire. C'est-à-dire que tant que, d'une certaine manière, on ne joue que son propre rôle, on écrit une histoire qui peut avoir des prétentions littéraires, mais qui n'est rien d'autre que de l'histoire. Si, effectivement, on construit un narrateur qui est un autre que soi-même, alors là, on se risque dans autre chose. Mais ce risque-là, on l'a pris ensemble. Parce que cette idée de trouble dans le genre, ben, c'est en jouant ensemble que elle s'est imposée. Ne serait-ce que en écoutant Isabelle nous parler de son instrument, de cette flûte cavale oblique qui ne doit pas normalement être jouée par une femme.
Tout à fait, oui, c'est un instrument
Isabelle
qui
Courroie.
Est réservé traditionnellement, en tout cas, aux hommes. C'est une histoire qui se transmet de génération en génération, souvent d'homme à homme, de berger, l'oncle du berger, le neveu du berger, le fils, etc. C'est vraiment une filiation qui passe par là. Évidemment, les choses changent. Moi, je suis heureuse de contribuer aussi et de nourrir ce changement en étant la première femme soliste des flûtes cavales. Et je suis très fière en même temps de ça, puisque c'est un changement, ça fait bouger les lignes et je suis très heureuse. Et quand Patrick Boucheron parle de la sincérité, au moment où il parle justement de ce trouble dans le genre, moi, j'ai ressenti quelque chose de profondément intime dans cette injonction, là où l'histoire, justement, intime, rejoint l'histoire collective. Oui. Cette question de la sincérité, et c'était nos discussions, et c'était tout ce travail qui est en même temps lié à la quotidienneté de nos conversations, qu'on retrouve aussi dans le...
Là, pour le coup, on allait vraiment chercher dans l'histoire des ressources d'intelligibilité pour comprendre ce qu'on vivait, et pour trouver effectivement une expression au plus juste. Voilà pourquoi la poésie peut donner des leçons d'exactitude au plus juste de ce qu'on ressentait vraiment. Puis Béatrice Dedi, c'est Bruno qui chante. Ce qui est là encore, effectivement.
Ce qui est apparu, je ne m'y attendais pas tellement, mais j'ai eu quelques retours de personnes très... a priori parfaitement bien dans leur siècle, qui m'ont dit « mais tu vas chanter, toi, le chant de la... » Parce qu'on m'a dit « qui va chanter, quelle chanteuse ?» En fait, j'ai dit « ben moi, on est que trois de toute façon. » Et... Ah bon, mais... Autant de personnes qui ne trouvent rien à redire au fait que depuis des dizaines d'années, on fasse chanter aux femmes des chants de troubadours hommes. Ça, évidemment, ça les avait pas gênés du tout jusqu'ici. Mais là, le fait que pour une des rares chants dont on a et la musique et le texte écrit par une femme troubadour, supposée femme troubadour, que ce soit chanté par un homme, c'était apparemment un petit peu... ça chahutait un peu. Et ben, du coup, on s'en est emparé avec d'autant plus d'enthousiasme et de joie.
Alors, à propos de troubles dans le genre.
Que sont mes amis devenus? Que j'avais de si près tes nus et tant d'aimer. Ils ont été trop clairsemés. Je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. C'est tes amis que vont importe et qu'ils vantaient devant ma porte les importants. avec le temps couvre de feuilles, quand il ne reste le branche feuille que n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, l'amour est mort. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mise en honte, en quelle manière.
Ruth Boeuf réinventée par Léo Ferré, qui avait sans doute regardé comment Verlaine l'avait lu, comment Rimbaud l'avait rêvé, et puis chanté donc à son tour ici par John Baez. Ça fait beaucoup de trajets, et au fond c'est aussi ce que vous racontez, ce que vous dites tous les trois d'une certaine façon dans ce livre 10, c'est-à-dire comment cela vient à nous, alors ça vient de loin, mais comment ça vient à nous et comment ça arrive à nous aujourd'hui, puisque tout se tord, écrivez-vous, Patrick Bouchelon, alors je pense que c'est aussi en lien avec un titre de Bruno Alary,
ben peut-être, oui, c'est Bruno qui dit tout ça.
Oui, enfin que vous reprenez, que vous écrivez et voilà que vous avez piqué donc à Bruno Alary, oui, tout se tord. Comment est-ce qu'une telle phrase résonne pour l'un et pour l'autre?
Moi, je reconnais bien Patrick dans ses attentions délicates, mais toujours très justes, qui laisse aller ses oreilles, qui retient vraiment absolument chacune des petites choses qu'on peut dire ou parfois suggérer à peine. Et j'avais parlé de ce poème qui s'appelait « Tout se tord », que j'avais mis sur cette musique qu'on entend sur le disque. Et tout ça rejoint encore l'idée de la torsion, le temps, les distorsions du temps. On est encore dans des choses qui font écho à d'autres moments du texte. Donc tout se tord, je l'avais parlé aussi, c'est très émouvant pour moi d'entendre John Baez, parce que c'est par John Baez, moi, que j'ai découvert Ruth Boeuf. C'est même pas par Léo Ferré. C'était déjà un rebond de Léo Ferré. Et parce que j'ai eu, comme beaucoup de guitaristes et d'historiens, un passé de hippie, oui, et de joueuse de cavale. Et donc j'ai.
Vous avez eu un passé de joueuse de cavale.
Non, mais j'incluais Isabelle dans notre passé commun de hippie. Et j'ai découvert Ruth Boeuf par John Baez. Et donc quand j'avais dit à Patrick, ben moi, quand j'aurais lis ce texte, ben j'ai 15 ans, tout se tord, et puis voilà, et ça fait des punchlines, parce que c'est pas péjoratif du tout, il y a aucune péjoration dans le fait de trouver, de cibler exactement les idées, de les réussir à les résumer en quelques mots comme il le fait. Et c'est très musical d'ailleurs comme geste, ouais. Patrick, ça.
Alors Patrick Boucheron, quand vous dites que vous avez 13 ans et que vous l'avez dans la poche, le Ruth Boeuf, en fait il s'agit de Bruno Alary.
Oui. D'abord, c'était aussi une occasion pour moi de rendre sensible sérieusement ce que je cesse de dire doctement, c'est-à-dire que pour moi, être historienne et historien consiste à se rendre redevable à la jeunesse et à ne pas trahir la jeune fille ou le jeune homme qu'on a été. Et donc, évidemment, le sérieux philologique m'aurait amené, puisqu'on commençait à avoir l'envie de parler de Ruth Boeuf, c'est-à-dire du moment précisément où la poésie se sépare de la musique, où elle devient le dit, on avait envie, évidemment, ça nous venait de là, avec John Baez, avec Léo Ferré, mais ce qu'ils attendaient de moi, en tant qu'historien sérieux, patenté, c'est que je leur dise, non mais Léo Ferré, il a un peu tripatouillé le texte, ce qui est vrai.
Donc, oh, pas qu'un peu, oui.
Un peu beaucoup. Oui. Enfin voilà, il a samplé Ruth Boeuf, plusieurs poèmes pour faire cette complainte qui parle à notre propre sensibilité. Et donc on pouvait ramener effectivement le texte. On aurait pu ramener le texte à une à une expression philologique plus proche de cet homme dont par ailleurs on ne sait rien. Mais justement le poème, le poésie Gallimard qu'on pourrait avoir dans la poche, c'est celui des poésie de l'infortune, des poèmes de l'infortune d'Edmond Farah, l'éminent médiéviste, mais qui lui-même, lorsqu'il parle de ses poèmes comme des poèmes de l'infortune, exprime aussi sa sensibilité, qui est une sensibilité, comme vous le disiez très bien, qui est informée par cette longue lignée maudite des poètes de Villon à Rimbaud.
Qui allonge le pas, eux aussi.
Qui allonge le pas, eux aussi. Et donc, on s'est dit, mais au fond, non, il faut être sincère, quoi. Faut le chanter tel qu'on l'a reçu, parce que finalement ce n'est rien d'autre que, alors c'est pas pour ça qu'effectivement il faut pas, je rends hommage aussi hein, dans le livre à la lignée érudite des historiennes et historiens de la littérature qui nous permettent de faire ce qu'on fait
pas tous si je peux me permettre quand
ah bon
vous parlez de non, c'est vraiment une parenthèse quand vous parlez de Béatrice Dedi et de la façon dont l'histoire a pu de façon extrêmement misogyne jusque dans les années 50-60
oui c'est vrai
parler de ces femmes.
Oui, ça c'est très frappant, jusque dans les années 50, 60, voire 70. Mais, donc on paye nos dettes, mais en même temps, c'est quand même avec cette puissance d'actualisation de la musique qu'on a à faire.
Bien sûr. Je me demandais aussi, puisque vous faisiez, Patrick Boucheron, vous faisiez allusion à Edmond Farah, et donc à ce recueil de poèmes de Rudebeuf qu'il a compilé d'une certaine façon, et qui au fond est un choix qui s'adresse, qui parle de nous, qui s'adresse à nous, hein, comme vous le dites, et ce qui nous ramène un peu aussi à votre façon à vous de faire de l'histoire, c'est-à-dire cet intérêt que vous avez pour la manière dont on fait récit plus que le récit lui-même, enfin au moins autant que le récit lui-même, et peut-être aussi avec l'idée au fond que vous vous êtes peut-être moins intéressé à une période qu'à ceux qui en ont fait le récit. Alors, je peux me tromper, je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Et ce qui pourrait être, en fait, le déclencheur de votre intérêt pour le Moyen-Âge. Je me demandais si, par exemple, en musique, cette chose-là existait aussi pour vous, Bruno Alary, peut-être pour vous aussi, Isabelle Courroy, c'est-à-dire le choix du répertoire, les premiers choix de répertoire que vous avez faits pouvaient passer davantage par des modèles d'interprètes que par la musique elle-même.
Je prends la balle. Peut-être, en tout cas, Isabelle, pour moi, le vecteur, c'est vraiment le son. C'est avant tout le son. Au-delà de qui, évidemment, les sons sont portés par des individus, des êtres de chair et d'os, mais c'est le son. Donc, le son, il y a quelque chose de très premier dans le son qui échappe, je pense, à ces catégories de qui a joué, de ce qui a été joué, etc. Même s'il y a une histoire, évidemment, du son, hein, bien sûr. Mais je pense que avec ce vecteur-là, vraiment, du son, on échappe un petit peu à ce genre de cloisonnement, enfin de binarité, on va dire.
Alors justement, Isabelle Courroy, vous, votre instrument, cette flûte toute particulière, hein, ce caval, donc ce sont des flûtes, alors c'est bien dommage que vous ne puissiez pas les voir, vous en avez amené plein en plus.
Oui, je vais voir mon facteur là, tout à l'heure.
Qui sont, donc normalement, hein, qui est donc juste une tige creuse, toute simple, avec des trous dedans, qui a pour particularité d'être jouée à l'oblique, selon un angle, alors si j'ai bien compris, qui est choisi par l'interprète. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez dû choisir votre angle? Choisir votre oblique.
Ah, c'est pas mal. Oui, j'ai dû choisir à un moment quelque chose, c'est sûr, à chaque seconde. En fait, cette famille des flûtes obliques est pile au milieu entre les flûtes droites qu'on connaît très bien en Occident, les flûtes à bec, les flûtes médiévales notamment, et les flûtes traversières. La flûte oblique se retrouve exactement au milieu des deux. Et cet angle n'est pas un angle choisi de façon personnelle. En fait, c'est un angle qui est purement déterminé par pour mettre en vibration l'air sur le biseau. Et ça permet d'envoyer l'air de façon... c'est comme une cible hein, de fléchette, on tape dans le mille et là le son existe. Il ne pourrait pas exister si la flûte était droite ou en traversière avec ce type d'embouchure. C'est une particularité des flûtes de l'Asie occidentale et de l'Europe, l'Orient de l'Europe. On les trouve pas en Occident, elles sont peut-être un peu trop le souffle est un peu trop chargé d'animalité peut-être.
Choisir cet instrument, Isabelle Courroy, pour vous c'était choisir quoi? C'est singulier, vous l'avez dit en plus. C'est vous êtes vraiment la première femme soliste.
Oui, c'est très singulier. Je l'ai rencontré très tard. Je l'ai rencontré grâce à un 33 tours. Il m'en souviendrait toujours. Hein. C'est vraiment comme un choc amoureux. C'est le son, vraiment ce son. C'est un son qui est très. Je pense que chaque fois que j'entends ce son, même maintenant, j'ai les mêmes vibrations vraiment et ça me touche de la même façon. C'est très singulier parce qu'elles sont complètement inconnues par ici. Il fallait bouger. Et j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas, c'est pas moi qui joue un instrument, c'est cet instrument qui me joue, cet instrument, il me fait.
Alors on va en écouter un petit extrait.
On croit que les hommes ont bâti Babel par orgueil. Mais c'est faux. Ils cherchaient refuge dans les hauteurs, se hissant sous les ailes des anges pour nouer alliance avec le ciel. La mauvaise troupe qui se réassemblait après le déluge était une foule apeurée, rêvant d'un lieu si élevé qu'il ne serait jamais englouti. La mystique juive le dit bien, qui commente ainsi la Genèse. Dieu n'a pas brisé leur tour pour châtier les hommes, mais pour les sauver. Il a donné l'ordre de dispersion afin que, disséminée, l'humanité devienne inexpugnable. Plus un seul endroit sur la terre indemne de sa résidence. Il y aura toujours, ici, là-bas, quelque part, un être humain parlant sa propre langue, chantant sa seule musique, sonnant, sifflant, soufflant, ivre de la diversité du monde. Et donc, le savait.
Un extrait de Jasmine, hein, qui se trouve donc dans Contretemps, dans ce livre disque Contretemps paru au Seuil, par Patrick Boucheron, Bruno Allary et Isabelle Courroy. Qu'est-ce qui rendait Bruno Allary ce cavale, donc cette flûte, cette tige creuse, cette cavité, comme vous dites, Isabelle Courroy, nécessaire à ce projet-là en particulier?
Plusieurs choses. Une amitié déjà ancienne et très forte avec Isabelle, une complicité, des habitudes de travail que j'aime beaucoup. C'est une des choses importantes quand même qui a présidé à cette main tendue que je lui ai tendue. Probablement aussi, ça répondra à contretemps et a posteriori à votre question tout à l'heure, c'est la deuxième fois que je réponds après coup.
Coup de rebond, question. Beaucoup de rebond.
Ok, médiéval. Vous demandiez qu'est-ce qui nous avait nourri. Est-ce que c'était les œuvres elles-mêmes ou plutôt les interprètes qui nous les avaient transmises? Et je pense que profondément, je pense que je suis plus sensible aux voix qu'aux instruments, même si je suis bien plus instrumentiste que chanteur. Je chante un peu, je chante sur ce disque notamment, mais je pense que vraiment ma langue maternelle, au sens biologique y compris, c'est celle de la voix, c'est le chant. Et clairement, le cavale d'Isabelle, ça fait partie des sonorités, des instruments qui pour moi s'apparentent beaucoup à la voix humaine, beaucoup beaucoup. À la parole aussi, donc elle faisait un pont évident entre Patrick et les guitares et les autres instruments que j'ai pu mettre, qu'on a entendu là, un pont entre la parole et le chant.
C'est ce que veut dire d'ailleurs cavale, hein,
dans la racine.
Dans la racine.
Bon, je pense qu'il y a cette parenté directe à la voix humaine, c'est quelque chose de très important. Le souffle, évidemment aussi, et le grain. On le sait de toute manière, hein, que rien n'est pur dans la nature, mais certainement pas les sons. Alors aujourd'hui, on sait, avec des machines, créer une sinusoïde pure, mais dans la nature, ça n'existe pas. Donc j'aime bien mettre en évidence les bruits, les scories du son, le réel du son, toutes ces choses qui font qu'un son musical, aussi joli soit-il, reste du bruit à la base. Et là, il est très présent dans le cavale. Il y a beaucoup de souffle, beaucoup de grains. Un enfant avait dit un jour à Isabelle, pourquoi il y a du sable dans ta flûte? Moi, j'aime bien qu'il y ait du sable un peu dans toutes les matières que j'emploie.
Alors, il y a du sable, il y a une direction aussi avec cet instrument si particulier, parce qu'il s'agit bien d'une oblique, hein, ça va de travers, d'une certaine façon. Vous revenez aussi, Patrick Boucheron, beaucoup là-dessus, hein, sur cette question de travers, de tordu, d'oblique. Pour vous, c'est aussi une direction, cette flûte-là?
Isabelle a dit l'Orient de l'Europe, et c'est ça la direction. C'est-à-dire qu'effectivement, on le dit dans le texte, contrairement à l'Occident qui est une butée, l'Orient est une direction. Et donc, vous avez ouvert cette émission en disant ça parle de flûte et d'Europe. Ben là, ça commence à parler par la flûte d'Europe. C'est-à-dire jusqu'où va l'Europe? Évidemment, il y a Caval, le Zadjal des chants andalous, les troubadours. On peut faire une lignée arabo-andalouse. Et c'est déjà important pour définir cette diversité européenne d'une rive à l'autre. Mais il y a aussi cette autre frontière, la frontière d'ailleurs entre la musique savante et la musique dite populaire ou folklorique, puisque Isabelle compose aussi beaucoup à partir, là, ce sont des airs, disons, des Balkans, hein, c'est ça, de Bulgarie et autres. Et ça nous intéressait aussi de montrer à la fin cette direction qui est aussi la direction de nos inquiétudes contemporaines. C'est peut-être le moment aussi de dire que ce texte ou ces sons se ressentent au fond d'images qu'on ne voit plus, mais qui étaient là. C'était celle du spectacle que Laurent Gachet avait pensé pour nous et qui était tout entier, au fond, gouverné par l'idée de dépouillement. C'est-à-dire que dans le spectacle, nous étions environnés de la transparence du temps dont on parle, c'est-à-dire des tulles où se projetaient des images, en particulier des images médiévales et qui faisaient une sorte d'architecture éphémère autour de nous. Et progressivement, tout se dispersait, tout s'éloignait, tout se dépouillait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre que ce son-là. Et ce son-là est orphelin des images qui l'ont fait naître, en fait. Et peut-être les tente à nouveau de les ramener. Parce que voilà, on a joué ensemble et on a enregistré séparément, au temps du grand confinement, ce disque.
Au fond, partir des troubadours, donc pour reprendre votre expression, Patrick Boucheron, c'était d'abord, enfin pour vous trois d'ailleurs, j'imagine aussi, une façon de faire résonner ou une façon de faire sonner même l'Europe. Personne ne veut répondre.
Non, parce que c'était aussi, il faut peut-être rappeler comment on s'est rencontrés, d'abord Bruno et moi, et Isabelle ensuite, à partir de la compagnie Rassegna et de son projet, qui est un projet à la fois politique et poétique. C'est assez simple, au fond, pardon, assez banal, de considérer qu'avec la musique, on peut effectivement élargir ses horizons et qu'il est plus facile de faire comprendre que nous sommes effectivement en région de dissemblance, comme l'écrivait Dante à propos de Babel, qui n'est pas une malédiction, mais une manière effectivement de se sauver en se dispersant. C'est plus facile de faire comprendre ça avec la musique, parce que tout le monde comprend que, évidemment, la musique qu'on entend, la musique qu'on aime, elle est faite de plein d'influences. Mais justement, on s'est rencontrés sur un disque, le disque d'avant de la compagnie Rassegna, Il Sole Non Si Muove, et qui prenait de la musique médiévale et du 16e siècle, voilà. Et du 16e siècle, et pas seulement de la musique méditerranéenne, c'est une compagnie marseillaise, mais anglaise. Donc c'était une manière déjà de déjouer, parce que là, la musique anglaise du 16e siècle, c'est pas le truc que spontanément on fait écouter aux gosses à Marseille, quand même.
Hein. Spontanément, non, et d'ailleurs, il m'a fallu du temps pour c'était un peu intimidant, ces répertoires-là. Et puis, on s'interdit des choses, y compris des fois dans ses propres projets. Donc, pour nous, déjà, il y avait pendant une bonne quinzaine d'années, les musiques dites, enfin, de Méditerranée, de manière très large, étaient déjà un terrain de jeu largement suffisant. Et puis, il y a eu un moment où j'ai eu envie de, là encore, peut-être de mettre une manière de prendre la tangente, un peu comme le fait Isabelle. D'ailleurs, Isabelle joue sur ce disque-là aussi, Il Sole Non Si Muove. Un élément important de cette création-là, une manière de parler à travers de ces musiques du XVIe siècle, de ce musicien, de cet artiste du XVIe siècle, comme un Européen un peu avant l'heure, qui s'ignore et qui va des Flandres vers l'Espagne, d'Angleterre en Italie, pour amener des savoirs, des sonorités, des compositions. Et donc je pense qu'il y avait cette question de l'Europe en devenir à peine était déjà présente, oui, effectivement, dans ce projet précédent qui a permis la rencontre de départ.
Qu'est-ce qui cloche, vous demandez-vous, Patrick Boucheron, à propos de cette Europe, ou en tout cas à propos de l'histoire de cette Europe? C'est le titre d'un des chapitres tableaux du livre. Qu'est-ce qui cloche, qui au fond pourrait être la question que pose indéfiniment l'historien? C'est ça la question de l'historien?
Oui, sans doute. D'abord, la cloche, on l'entend au début du disque. Elle commence à teinter à Montserrat, et puis on a voulu la ramener à la fin. Oui, bien sûr, vous avez raison, c'est la question de l'histoire. Si on fait l'Europe n'a cessé de faire l'histoire du monde comme l'inventaire de tout ce qui a manqué au monde pour être l'Europe. Mais si c'était l'inverse, si on devait se poser la question de qu'est-ce qui a manqué à l'Europe? Ce qui manque à l'Europe, aujourd'hui, c'est effectivement une conscience moins de ses limites que de ses directions. Et il est plus facile, au fond, aujourd'hui, de parler de l'autre rive de la Méditerranée que de parler de, comme tu l'as dit, Isabelle, de l'Orient de l'Europe. Parce que là, effectivement, essayer de montrer comment la culture européenne vient aujourd'hui s'abîmer, il faut le dire, dans la Mitteleuropa qui a été le creuset d'une conception multiculturelle de l'Europe et qui est aujourd'hui le berceau de son nationalisme identitaire le plus étroit, ça c'est quelque chose qui est grave et sérieux. Je dis pas que le disque l'aborde avec gravité et sérieux, mais enfin c'est quand même inévitablement sa hantise, son inquiétude.
Peut-être juste une dernière question avant de nous quitter sur la place qui est la vôtre dans ce projet, Patrick Boucheron. Sur scène, être sur scène ou écrire ce texte tel que vous l'avez écrit, c'est-à-dire un texte que vous avez écrit en même temps d'ailleurs qu'un livre académique, mais qui pour le coup celui-là ne l'est pas du tout. Ce projet-là, c'est aussi faire métier d'historien, dites-vous. Pas moins que lorsque vous écrivez un texte académique ou une recherche académique. Qu'est-ce que ce type de projet-là peut, pour l'histoire, pour une fois on inverse la question, peut pour l'histoire que ne peut pas le reste de votre travail, hein.
Le mouvement. Peut-être rappeler, oui, le mouvement, l'adresse, l'incarnation, le risque pris dans justement la construction de... Voilà, de ce que j'ai appelé tout à l'heure un narrateur. Je pense que l'histoire a à transmettre des savoirs, mais a aussi à partager des émotions. Et que, en tant que, c'est qu'on n'est pas moins savant lorsque, effectivement, on tente avec sincérité et douceur, on en reparlera, enfin, on en a parlé, voilà, de faire entendre les airs qu'on a dans la tête.
Isabelle Courroy, Bruno Alary, Patrick Boucheron, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois. Aujourd'hui, à la technique, Ludovic Auger, à la préparation, Thierry Beauchamp et à la réalisation, François Connac. Vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de France Culture, à la page de l'émission. À réécouter, partager et podcaster. La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.